Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du numéro 797 d'Invino depuis la création de l'émission. En 2004, nous sommes en public et délocalisés au restaurant Bar à Vin Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Marseille sur 95.1 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec la mention XXO à Cognac. Qu'est-ce que c'est que ça? Les vins liquoreux de Saucignac, le Vino Quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur invinoradio.fm. Et puis une grande question, c'est crucial, le vin est-il bon pour la santé, pour le sexe, mon cher Philippe Renaud? Il est là, Philippe Renaud, Frédéric Hermine et Philippe Orbach, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Frédéric, vous qui êtes journaliste au magazine Terre de Vin, on va commencer par accueillir un homme formidable, tout simplement, toute modestie. Il s'appelle Guillaume Tari, bonjour Guillaume.
Bonjour Alain.
Alors, si on parle un peu de bandole, hein?
Oui. Alors, président des vins de Bandol depuis 2015, Guillaume Tari, et puis à la tête du domaine de la Bégude, alors depuis un peu plus longtemps, depuis 1996. Alors, un Bordelais hein, qui a échu en terre bandolaise avec un vignoble de 17 hectares sur un tout petit domaine d'environ 500 hectares, le plus haut de l'appellation, avec une vue panoramique sur la Méditerranée assez waouh, comme on dit.
Ah, mais c'est sublime, c'est sublime.
Oui, oui. Donc, 7e génération de vignerons. Guillaume vient de Margaux et n'a pas été élevé sur la Méditerranée, bien qu'il soit marié à une charmante Espagnole, Soledad. Et qu'est-ce qui vous a pris de passer de Bordeaux à Bandol?
C'est surtout l'opportunité. C'est une opportunité extraordinaire. Parmi les plus vieilles appellations de France, depuis 1941, Bandol est une appellation qui défend haut les couleurs des rouges, des grands rouges de Provence. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'était absolument formidable pour un enfant né dans des appellations margalaises, des appellations de rouges, des appellations de grands vins. Et il était absolument formidable de donner un défi pareil, aller produire l'équivalence d'excellence en terre provençale et à Bandol avec une vue absolument extraordinaire, c'est-à-dire la chance de produire d'aussi grands vins, mais avec un art de vivre absolument sans comparaison. Mmh.
D'où le teint allé, hein, Guillaume. Hein. Il fait tout le temps beau là-bas, quoi, non?
C'est exactement ça, oui. On rêve de pluie un petit peu.
Frédéric.
Donc l'une des actualités de Bandol, c'est la création, depuis quelques années, du conservatoire du Mourvèdre. Alors le Mourvèdre qui est le cépage roi de Bandol, qui entre dans les assemblages à hauteur de 50 à 95% pour le rouge, de 20 à 95% pour le rosé. Et il est important de préserver ce cépage, d'où la création de ce conservatoire avec 116 clones, chaque clone ayant 17 pieds minimum, une cinquantaine espagnoles, mais aussi des Mourvèdres de Bordelais, du Languedoc, du Var, bien sûr. Alors, à quoi il sert ce conservatoire qui est donc à la Bégude en grande partie?
Le conservatoire, c'est surtout l'esprit de Bandol de maintenir... j'ai déjà entendu une sorte d'évolution, mais sans révolution, c'est-à-dire en effet le fait de baser sur notre progrès la connaissance et la richesse du passé. Donc nous sommes allés chercher les Mourvèdres. C'est vrai que le Mourvèdre est un cépage espagnol. Il vient d'Alicante, de Roumilla. Il est arrivé chez nous grâce au pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle. À l'époque, on était très fervent, des pèlerinages divers et variés. Et nous avons eu la chance à Bandol donc de maintenir. Le Mourvèdre s'y est trouvé très bien. C'est l'endroit le plus ensoleillé de France continentale. C'est un microclimat qui est protégé par la Sainte-Baume, encore un lieu de pèlerinage, où Sainte-Marie-Madeleine est venue expier ses péchés. Elle était belle.
Oui, vous l'avez bien connue, Philippe Renaud. Hein.
Ah oui.
Oui, elle était vraiment belle. Et puis, il y a un paquet de péchés. Hein. C'est... Ah, oui.
Bah, je ferai une chronique sur Marie.
Voilà, qui va durer 7 heures. Alors, oui, allons-y, Guillaume.
7 heures de plaisir, wow. Ça va être... Et donc, oui, c'est avec beaucoup de joie que donc, j'ai accueilli ce conservatoire, qui a été le fruit de plusieurs conservatoires, qui avaient commencé en 1978, donc c'est un travail de longue haleine. Cette richesse génétique a été multipliée aujourd'hui, elle est sauvée, donc on compte bien la multiplier dans les différents points de Bandol. La parcelle est en cours de classement parcelle mère, c'est-à-dire qu'on va pouvoir donner ou vendre les yeux aux différents adhérents de l'appellation Bandol. Donc là, ça y est, le Bandol restera dans toute sa richesse dans l'appellation, donc ça c'est une excellente nouvelle. Voilà, donc c'est vrai que ça a concouru à tout ça.
Alors, il y a quelques pieds, 90 pieds de choses un peu insolites. Un mourvèdre blanc et un mourvèdre gris qui ont déjà été replantés à la Fond des Pères. Ça met beaucoup de temps pour qu'un clone soit reconnu.
Alors qu'un clone soit reconnu, ça met beaucoup de temps, mais de toute façon, à Bandol, déjà un vin met beaucoup de temps, car de toute façon, une vigne plantée aujourd'hui ne pourra espérer produire un vin qui sera vendu que dans 5 ans pour le rosé et dans 10 ans pour le rouge, car nous ne pourrons produire qu'à la 8e feuille, nous avons encore un an et demi d'élevage obligatoire.
Ça, Guillaume, c'est dans le décret, c'est-à-dire que c'est légal ce que vous dites ou c'est un choix ?
Absolument, je suis le lecteur absolument intégral du décret.
Très bien, Frédéric.
Alors, seulement 95%, on peut se demander pourquoi on ne peut pas aller jusqu'à 100% avec le Mourvèdre.
C'est une question extrêmement intéressante que la question des 95%. Le Mourvèdre est un pur sang qui ne peut pas aller à 100%. Voilà.
Donc, pur sang. Parle de tout, c'est spirituel, c'est les canassons, tout ça. Là, c'est...
Et qui mérite donc
allez-y,
un bel élevage.
La jument d'une vigne, allez-y Frédéric.
Certains regrettent que le rouge diminue. On était à 35% il y a une vingtaine d'années, on est à peine à 20% maintenant. Le rosé, face à une demande et au succès, progresse énormément pour maintenant atteindre à peu près 80%. Il est aussi majoritairement à base de Mourvèdre, ou en tout cas pour une bonne partie. Quelles sont justement la particularité de ces vins à base de Mourvèdre ? Ça donne des vins quand même assez puissants et qui ont besoin d'élevage.
Alors, les vins rouges ont besoin d'élevage, très clairement. Besoin d'élevage pour se révéler, pour éviter un des petit défaut que le Mourvèdre pourrait avoir, c'est-à-dire une certaine réduction. On parlait de cheval, voilà, une petite réduction, un côté un peu écurie qu'on peut avoir avec des Mourvèdres qui avaient plus de 20 ou 30 ans les décades précédentes. Aujourd'hui, très clairement, ces Mourvèdres ont été amenés à des maturités avec des connaissances et une nouvelle manière de les traiter. Donc, c'est des Mourvèdres qui ont toujours cette longueur, cette trame tannique, mais avec des fruits qui révèlent beaucoup plus rapidement leurs notes d'épices, de poivre. Et voilà, et avec toujours cette salinité qui est vraiment propre à Bandol, ce petit microclimat de 1500 hectares, justement bordé par cette montagne magique, avec la mer, la vue magique de l'autre côté. Donc on est vraiment toujours sur la sublimation des éléments et la sublimation du Mourvèdre, hein, qui a besoin de cet ensoleillement maximum et de cette fraîcheur.
Et pour terminer, la gamme de prix pour la Végut, par exemple, en général, sur les Bandol, qu'est-ce qu'on peut, espérer de combien sur la couleur des vins et puis le potentiel de vieillissement ?
Le potentiel de vieillissement est beaucoup plus illimité que les prix, malheureusement. Les prix, on peut espérer trouver des bandoles entre 10 et 80 euros.
Quoi. Et 80 euros. Merci beaucoup, Guillaume Tarré. Merci également, Frédéric Hermine, Vino Sud Radio. Retrouve celui qui n'a pas de prix, Philippe Forbach, propriétaire notamment du restaurant Le Bistrot du Sommelier à Paris, boulevard Haussmann, pour une balade du côté de Saussignac. C'est où ça, Saussignac?
Saussignac, c'est à côté de Montbazillac, c'est en Dordogne, à deux pas de la Gironde, finalement. Il y a quelques encablures du Bordelais. Mais c'est sur la rive gauche de la fameuse Dordogne, dans un secteur qui produit toutes sortes de vins et toutes sortes d'appellations, Bergerac, Côte de Bergerac, Montravel, Pécharmant, etc. Et deux appellations phares, notamment, il y en a une troisième et qui est vraiment microscopique, c'est Rosette, mais il y a Montbazillac qui est très connu, qui produit des vins liquoreux depuis très longtemps, et Saussignac, qui s'est un peu détaché de Montbazillac avec un décret qui est relativement récent puisqu'il date du 25 février. Très jolie date, hein, c'est mon anniversaire, merci beaucoup. Voilà, chaque année.
Dans un mois,
depuis un certain temps,
dans
exactement.
Un mois.
Mais là, c'était en 2005.
Comme vous. Hein,
pour moi, c'était pas tout à fait le même siècle, mais néanmoins, le cœur y est. Alors, on produit quoi ? On produit des vins liquoreux, élaborés à partir de raisins classiques du sud-ouest de la France et qu'on trouve dans le Bordelais, notamment dans le Sauternais ou dans la région de Montbazillac en particulier, qui sont le Sémillon, le Sauvignon et la fameuse muscadelle. Quand on parle de raisins botrytisés, ça parle parfois de pourriture noble, ça évoque aussi quelquefois une évocation particulière. Ce sont des raisins qui sont atteints par cette fameuse pourriture noble parce qu'ils bénéficient de conditions tout à fait particulières. Il faut des brouillards matinaux, et là on est à la Dordogne à nos pieds qui brouillardise de plaisir. Et il faut aussi de l'ensoleillement, et l'été indien notamment, qu'on a souvent dans ces régions, favorise effectivement le développement de cette pourriture noble. Selon les années, on peut avoir des raisins botrytisés, donc atteints de cette fameuse pourriture noble, soit des raisins passeriers, qui est une autre approche, puisque c'est des raisins qui sont séchés par la maturité, notamment par le soleil, mais qui reste sain, c'est-à-dire non atteint de cette pourriture noble. Les deux pouvant être mixés ou des fois pouvant dominer. Et selon les millésimes, on peut avoir des tendances un peu plus passeriées, avec des raisins, avec un côté extrêmement confit et presque le côté raisin de Corinthe au niveau des parfums, ou des raisins, ou des vins issus de raisins effectivement botrytisés, avec des parfums qui évoquent plus le côté un peu champignon. Des notes un peu confites également dans les deux cas, extrêmement intéressant.
Oui, il y a beaucoup de choses.
Oui, il y a plein de choses. Alors l'appellation n'est pas énorme, le potentiel est assez important puisqu'il y a 900 hectares d'appellation, mais pas tout est planté. Et puis surtout, c'est une région un peu mixte dans laquelle on peut faire effectivement différentes appellations en fonction de la situation géographique et de l'encépagement dont on dispose. Alors ça donne quoi comme type de vin ? Donc vous l'avez compris, c'est des vins liquoreux, donc des vins à sucre résiduel, blanc uniquement, qui peuvent se boire finalement au bout de 2-3 ans parce que la gourmandise fruitée est une belle évocation au plaisir, spontanée, mais ça peut se garder également assez longtemps. Il n'est pas rare de pouvoir goûter des vins liquoreux de plusieurs dizaines d'années.
Ah quand même.
Et là, même si l'appellation est récente, on produit des vins depuis assez longtemps dans le secteur. Et si on a la chance de trouver effectivement quelques millésimes, il y a peu de chances qu'on soit déçu, parce que même si ça varie du plaisir spontané, du fruit frais fruité au départ, on va vers le confit, vers l'épice, vers le côté un peu plus sous-bois, vers des notes de fruits secs,
d'amandes,
quelques
vignons, Philippe, peut-être, qui ne sont pas loupés dans cette appellation.
Oui, le symbole, c'est le domaine des Essarts, notamment avec la fameuse cuvée Flavie, mais le domaine de l'Est est également très intéressant, ou le domaine Grinou qui produit également des vins. Et surtout en cette saison où finalement tout le mois de janvier on célèbre les
avec
rois.
Avec une galette des rois, c'est bon ça.
Galette des rois.
Tout seul,
ça va
tout seul.
Particulièrement bien.
Tout seul, non,
mais oui, mais
des
tout
copains.
Seul. Tout seul, un petit morceau de galette qui reste un peu dans l'après-midi. On s'endort gentiment dans la fraîcheur effectivement
tout
de ce mois de janvier.
Et
on
est
avec un petit feu de cheminée, la peau de bête, la belle-mère, tout ça.
Et un verre. Et même si il vous en reste le lendemain, même si vous n'avez pas pris la précaution de reboucher le vin, et bien ces vins supportent extrêmement bien l'oxygénation, pourvu qu'ils soient servis à la température adéquate et pas trop froid, s'il vous plaît.
Merci beaucoup.
12 degrés, c'est parfait.
Il faut réchauffer dans le verre devant
Merci
la
beaucoup. Alors, vous aimez le sexe, Frédéric, ou pas ?
Avec le Saucignac, faudrait que
avec
j'essaye.
Avec le Saucignac, c'est pas mal. Bandol est pas mal aussi, c'est vrai. Merci en tout cas. Faut on en parle dans quelques instants, juste après le Vino Quiz avec le docteur Philippe Renaud. Tout de suite.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour au restaurant Bar à Vin, Nicolas. Nous sommes au 31 Place de la Madeleine pour cette émission publique et délocalisée avec Philippe Forbach et puis le Vino Quiz du week-end, Philippe.
Je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du livre de David Cobold. Vous allez enfin vous y connaître en vin. Voici la question de ce week-end. Le domaine de la Garenne, distribué exclusivement par la famille De Villard, a pour emblème, réponse A, un renard, réponse B, un lapin, ou réponse C, une perdrix.
J'ai peur.
Reste raisonnable. Pour répondre et gagner, vous le souhaitez, un exemplaire du livre de David Cobold, vous allez enfin vous y connaître en vin. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Et le gagnant sera tiré au sort, comme chaque semaine, parmi les nombreuses bonnes réponses.
Merci beaucoup, Philippe Abrac, qui vient de sur Radio. On retrouve maintenant notre docteur, notre psychiatre, notre sexologue, Philippe Renaud, pour un sujet qui est assez étonnant. On parle de sexe ou on parle de vin aujourd'hui, là, Philippe ?
Mais Alain, on va parler des deux.
Oui.
Et je pose une question qui est comment le sexe s'accommode-t-il du vin ? Eh bien, j'ai bien réfléchi, j'ai lu des tas de documents, j'ai compulsé des revues scientifiques. Je dois dire, ça commode pas mal. Oui, parce qu'on aurait pu dire, et vous allez avoir tous les hygiénistes qui vont vous dire, attendez, attention, on le dira bien sûr avec modération, mais je trouve qu'il s'accorde pas mal, et même, moi je dirais que par moments, c'est nécessaire.
Que le sexe vin, ou le vin
les deux.
Les deux, mon commandant.
Peut-être plus le vin au sexe que le sexe au vin. Oui. Alors, le vin a, semble-t-il, beaucoup de vertus envers le sexe, certainement plus d'effets bénéfiques, je le disais, que d'effets délétères, toujours en fonction de la modération.
Bien sûr, toujours.
Et le sexe le lui rend bien. Le vin, comme on le sait, Philippe Bouvard nous disait que c'était le sang de la treille qu'on transforme par voie buccale. Il est ensuite réparti dans l'ensemble de l'organisme et il va vers le premier organe sexuel. Quel est-il ?
Le cerveau, non ?
Le cerveau, exact, Alain, vous êtes formidable.
Eh bien, je m'entraîne tous les matins et tous les soirs.
C'est au niveau du cerveau que tout se commande, que le sexe s'interrompt, qu'il se libère, et c'est vraiment cela. Ça peut s'arrêter, ça peut, et tout, vous avez tout un tas de neurotransmetteurs qui vont faciliter ou freiner la sexualité. Il va le faire par l'intermédiaire de substances, et notamment, il va y avoir des stimulants du cerveau, et c'est en premier lieu, c'est les amines. Et alors, dans le vin, notamment, il y a pas mal d'amines, l'histamine, la thyramine, l'histamine, c'est connu dans l'allergie.
Il y en a beaucoup dans le Bordeaux, le Guillaume Tari ?
Particulièrement. Oui, il n'ose pas en parler.
Forcément.
C'est vrai que c'est chaud chez vous aussi.
Absolument. D'ailleurs, l'étymologie de Bandol, ça vient d'où, s'il vous plaît, docteur ?
Exactement, exactement.
Mais j'en parlerai tout à l'heure, justement. J'avais pas prévu cela, mais vous allez voir.
Ah bah oui.
Bon, l'histamine, on peut avoir des crises d'allergie et c'est l'histamine qui est en cause. La thyramine va jouer sur la tension artérielle, ainsi de suite. La sérotonine, qui fait partie des amines et qui est un freinateur de la sexualité.
Un freinateur, c'est un frein.
Ça va limiter, ça va ralentir.
Non, c'est pas une faute de français, c'est un freinateur.
Non, c'est un freinateur.
Mais quand même, c'est meilleur quand c'est long.
Vous avez le frelon, vous avez le freinateur.
Le freinateur, c'est-à-dire que c'est qu'à ce moment-là, la sexualité marche plus.
Ouais.
Les amines, on va en trouver.
Pour passer au bandol.
Alors, on va en trouver, et je voudrais que les spécialistes me détrompent.
Philippe, spécialiste, bien sûr.
Les amines, on en trouve surtout dans les vins rouges, dans le Merlot, Cabernet, Sauvignon, Cabernet Franc. On m'a dit. Enfin, en tout cas, je l'ai trouvé dans des publications. On a remarqué que les vins qui ont la plus grande quantité d'amines sont plutôt des vins faits de levures naturelles, vieillis en chêne, sans collage, issus de fermentations malolactiques. Ça fait quand même beaucoup, peut-être. Mmh. Mais leur action est complexe, parce que vous avez parmi ces amines, il y en a qui sont freinatrices, on vient d'en parler, et puis il y en a d'autres qui sont stimulantes. Par exemple, l'histamine est stimulante de la sexualité.
Mais Philippe, est-ce qu'il y a des vrais travaux scientifiques qui ont été établis, réalisés pour
il y a des travaux
le lien entre le vin et le sexe ?
Exact. Il y a plusieurs études scientifiques qui ont montré un lien entre la consommation modérée, toujours la consommation modérée.
Toujours de sexe.
Et je vous dirai
sinon, c'est l'arrêtateur.
Oui, l'arrêtateur.
Consommation modérée du vin, pas forcément du sexe. En général, on parle de 2 verres de vin. J'en citerai une qui a été publiée en 2012 dans le Journal of Sexual Medicine. C'est à Florence.
C'est à noter Philippe, si vous voulez vous abonner pour, pour la galette des rois. Là.
Pour la revue, le Journal of Sexual Medicine.
Pour les rois, d'ailleurs. Pour dire les rois, ça tombe bien.
Ouais, qui va jouer la reine, là ?
Alors, dans cette étude, il s'agissait d'une étude qui a été faite dans la région de Chianti. C'est quand même pas pour rien. Je me suis demandé pourquoi l'étude, le French Paradox, a été faite dans la région de Bordeaux et avec des gens issus du Médoc. Moi, je crois que le CIVB, par exemple, ou des organismes syndicaux sont peut-être derrière certaines études.
Et l'œnologue Rocco Siffredi s'intéresse beaucoup à la question en Italie.
C'est un grand œnologue.
Ouais.
Alors, on a évalué la santé sexuelle de 800 femmes âgées de 18 à 50 ans qui buvaient régulièrement 2 verres de vin par jour. Elles présentaient un indice de santé sexuelle, c'est-à-dire de satisfaction, d'excitation, d'orgasme, un score significativement plus élevé que les femmes qui étaient des témoins, qui étaient abstinentes, ça existe, ou consommatrices plus modérées, maximum 1 verre par jour. Alors, d'autres études vont dans le même sens, toujours dans une consommation modérée, pas seulement par la consommation de l'alcool, hein, mais plutôt par les composantes qui jouent certainement un rôle dans la désinhibition, dans la libération des comportements. Alors, c'est bien connu d'un vin festif comme le champagne, on le sait, on voit combien, et nous, dans les consultations en sexologie, il y a beaucoup de gens, de femmes qui disent, après 1 verre ou 2, c'est beaucoup plus facile. La sexualité masculine se libère très facilement, la sexualité féminine, elle est, je vais dire, très conditionnel. Il y a beaucoup de conditions pour l'amour. Et alors, un petit verre de vin, 2 verres de vin, pas plus.
Ça va mieux. Et vous, Frédéric, il vous en faut combien, vous ?
Non, moi, j'en bois régulièrement. Alors, je ne sais pas trop, je n'ai pas encore bien évalué. Il va falloir que je fasse des tests.
Bon,
à 1, à 2, à 3, à 4.
On parlait de verre, là, je suppose.
Non, 2 centilitres, Alain. Enfin, avec modération, on a dit.
Dire que c'est...
Oui. Ah, mais il y a des unités de sexe aussi. Ça peut être 1 ou 2 unités de sexe.
Et c'est plutôt vin rouge, alors, c'est ça, si j'ai bien
compris ? Alors, toutes les études. Alors, je me suis demandé pourquoi toutes les études, je n'ai pas trouvé une seule étude faite avec un vin blanc, avec un rosé.
C'est les anthocyanes qui jouent ou même pas ?
Ah, j'en sais rien. Moi, je crois que c'est un choix délibéré.
C'est ce qu'on va faire, tester sur vous. Tiens, on va prendre un verre de vin blanc. Regardez, un verre de vin rouge.
C'est-à-dire qu'ils prennent du vin rouge pour éviter de rougir, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Ah, c'est possible. Mais enfin, quoi qu'il en soit, d'abord, le vin est un stimulant vasculaire. Ça stimule la circulation sanguine, l'irrigation de la zone génitale pendant une période d'excitation. Lorsqu'on commence à être dans le feu de l'action, vous avez une vascularisation, une vasodilatation très intense des organes génitaux, hein, qui vont se transformer. Et le vin va y participer parce qu'il a des propriétés pour cela. Alors le côté délétère, le côté limite, ben, c'est lorsqu'on en prend trop. Et alors ce qui est très amusant, c'est qu'on a dit souvent, c'est demander pourquoi en France, on était des grands consommateurs, notamment d'anxiolytiques,
bien sûr,
de psychotropes.
Malheureusement.
Et il y a une hypothèse qui a été faite, c'est un pays de consommation de vin, et les anxiolytiques ont exactement les mêmes propriétés que les vins ou que les alcools. C'est-à-dire qu'ils sont des inhibiteurs à faible dose et ils sont ensucants, assoupissants à forte dose. Et en définitive, c'est là qu'on a un côté délétère lorsqu'il y a des consommations trop importantes. Alors, dernier point qui me semble très important, et je l'ai fait spécialement pour vous, cher Guillaume Tari, connaissez-vous, et Philippe également, connaissez-vous le blog d'Olif?
Oui, moi je le connais.
Ah. Mmh. Ah ben alors je sous-titre, et vous irez le voir. Le sous-titre du blog d'Olif, c'est assez étonnant, ça s'appelle « Le parcours gustatif, non pas d'un terroriste, d'un terroiriste, hédoniste, naturiste, jurassique », que certains d'entre vous doivent connaître. Donc, vous pouvez visiter son site. Alors il va faire quelque chose de terrible vis-à-vis des vins de Bordeaux. Il y a le goût amer du vin de Bordeaux. Il commente un ouvrage que vous connaissez, « Les raisins de la misère ». Et puis il va parler de l'Arbois, l'idole des jeunes.
Il est jurassien, donc forcément.
Il est jurassien, bien sûr.
Il a le droit.
Et puis il va parler du goût retrouvé. Il est beaucoup pour les vins nature, puisque lui-même il est 100% nature, 100% naturiste. Hein, notre ami Olif, il a une bonne connaissance de l'anatomie, puisque dans la citation que je vais vous proposer, il nous parle de deux structures du pénis. Vous savez, dans le pénis, il y a des corps caverneux et le corps spongieux. Et voici ce qu'il dit d'un bandol, cher ami. C'est la tourtine 2004 du domaine Tempier. Il dit le Viagra, de l'œnophile. Forcément, c'est du bandol, un vin aux propriétés légèrement caverneuses et vaguement spongieuses, du genre qui te file à la fois le gourdin, le rouge aux tempes et un tour de rein à titine. Voilà, c'est une bonne citation.
C'est QFD. Merci. Vous confirmez, Guillaume?
Absolument, j'ai mal au dos d'ailleurs.
Vous aviez déjà naturellement beaucoup de touristes, mais alors là, vous allez avoir encore plus. Là, on va plus aller à Lourdes, on va aller à Bandol. Merci, Philippe. Et une vidéo sur radio, on retrouve Frédéric. Alors, c'est compliqué l'enchaînement avec Charente, le cognac. Là, qu'est-ce qui se passe, cognac?
Je n'ai pas non plus essayé avec le cognac.
Parce que si vous mettez trop en charentaise, ça ne marche plus non plus.
On va éviter les mélanges. Je vais vous parler d'une nouvelle appellation, une nouvelle mention plus exactement, qui est le XXO, qui vient de passer en décret au JO, enfin, au journal officiel.
Il y a quand même une liaison directe.
Deuxième
liaison.
Extra old, je préfère préciser avant.
Il n'y a pas d'âge pour ça. Hein.
Voilà.
Et alors, on est très loin de condom ou pas, là, pour la suite de l'émission là,
Donc, ça concerne les eaux de vie de plus de 14 ans. Alors, avant, en fait, elles étaient mentionnées hors d'âge. Et puis, il se trouve qu'une petite maison qui s'appelle Annecy, qui représente juste à peu près la moitié des volumes de cognac, avait eu la bonne idée l'année dernière, enfin, il y a même un peu plus d'un an, de commercialiser une carafe principalement sur les aéroports d'Asie et des États-Unis qui s'appelait XXO hors d'âge. Et les fraudes n'ont pas aimé parce qu'ils ont trouvé que l'appellation était un peu trompeuse, la mention était trompeuse, qu'on ne s'y retrouvait plus par rapport au XO, enfin, ça prêtait un peu à confusion et que de toute façon ça n'était pas une mention obligatoire et une mention légale. Mais Annecy, ayant un petit pouvoir justement au niveau de l'interprofession des vins de cognac, a fait réfléchir un peu tout le monde en disant bah, après tout, ce serait mieux que hors d'âge où on ne sait pas trop où on est, c'est pas forcément très clair, donc il vaudrait mieux XXO, ce qui est bien plus porteur. Surtout avec la puissance de feu de communication d'Annecy, ça va l'être déjà beaucoup plus. C'est vrai que sur les vieilles catégories, alors il y a certains marchés, le cognac, je vous rappelle, ça fait 206 millions de bouteilles cette année, exportées à 98% toujours. Et certains marchés sont plus intéressants que d'autres pour cette catégorie vieille. Alors les États-Unis, eux, c'est 70% VS pour mettre dans les cocktails. Ils consomment peu de très vieux cognac. Mais sachant que c'est le premier marché avec 82 millions de bouteilles qui progresse toujours énormément. De toute façon, les catégories même progressant peu sur un volume pareil, c'est important. Et puis il y aura surtout l'Asie, la Chine que ça concernera parce que il y a une très forte demande sur les marchés asiatiques pour ce XXO et beaucoup d'autres petites maisons vont aussi s'y mettre, bien sûr.
Merci beaucoup, Frédéric Hermine, Philippe Renaud et puis Philippe Forbrac. Fin de ce numéro d'une vidéo sur Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Sud. sudradio.fr ou invinoradio.fr. On se retrouve aussi sur notre page Facebook Invino. Rendez-vous donc samedi prochain à 12h30 précise pour une nouvelle émission. Nous serons toujours en public et délocalisés au restaurant Bar à Vin Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. D'ici là, excellent déjeuner. Restez à l'écoute de Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.
Sud Radio Invino.